Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous allons reprendre sur la thématique des concours dont je vous avais parlé la dernière fois. C'est un sujet important et je dois dire que ma position est très minoritaire chez les architectes parce que, pour des raisons historiques, la profession croit que le concours est une forme démocratique et qui donne sa chance à tout le monde. Bon, le système a pu, à un moment donné, être purée sans tâche, mais aujourd'hui, je pense qu'il est vérolé et particulièrement nocif, comme je vous l'expliquais la semaine dernière, à la fois pour la profession, mais en plus de cela, pour les usagers que vous êtes, et d'une manière générale, pour les bâtiments qui seront produits, qui seront faits dans les décennies à venir et les décennies passées. Alors, il y a un point qui me paraît aussi important, c'est que les dossiers pour les concours sont très lourds à constituer et ils sont de plus en plus complexes puisqu'ils font appel à un grand nombre de personnels annexes qui sont les ingénieurs, les paysagistes, les économistes, avec une demande très administrative et très française de pièces et la responsabilité du montage de ces dossiers appartient aux architectes, mais il faut dire que ce n'est pas des pièces à fournir après que l'on soit ou sélectionné ou lauréat, c'est des pièces qui sont à fournir en amont. Ça veut dire que, par exemple, sur un concours où il y aura 4 ou 5 sélectionnés, il y aura peut-être, si le concours est assez intéressant, 80, une centaine de demandes, et donc les agences d'architectes vont faire des dossiers, et tout ça va peser sur leurs finances. Et évidemment, puisque les seuls sélectionnés pourront toucher une prime. Alors, le problème de la prime, qui a été à un moment donné très faible, bon, et qui a été plus ou moins réévalué, mais en fait, dans la réalité, ça ne correspond jamais au travail qui est effectué, et on peut dire même qu'il y a forcément une inflation par rapport aux demandes, même si elles sont minorées, il y a toujours beaucoup plus de travail qui est fourni que ce qui est demandé. Bon, ça peut se comprendre puisqu'il s'agit d'une compétition dans laquelle tout le monde essaie d'en faire le maximum pour être lauréat. Donc, ce système, globalement, produit un nombre incroyable, à la fois les dossiers, comme je vous disais, de demandes, mais également, évidemment, les projets qui vont être soumis à un jury, et ça fait une perte considérable. Alors, il y a des perversités encore plus grandes, par exemple, la ville de Toulouse, contre toute réglementation, propose et demande aux maîtres d'ouvrage, promoteurs privés, qui ne sont pas soumis à concours, que leur architecte présente plusieurs projets. Là, on arrive, je crois, à l'absurdité absolue, et surtout, ça renvoie à une dévalorisation, pardon, du travail de l'architecte, qui est très fâcheuse et qui, effectivement, est grandement responsable aujourd'hui du marasme de la profession d'une manière globale et générale. Donc il est évident que nous avons vu la semaine dernière les différentes causes, notamment de la perte du rôle de conseil où l'architecte devenait infantilisé à passer des examens toute sa vie, ce qui est d'une absurdité absolue. Et effectivement, on arrive à des conséquences financières qui sont très graves. Et comme je vous avais dit aussi, il y a une mise en concurrence en plus des honoraires, ce qui est complètement aberrant. Donc, les conséquences de la profession qui se paupérise d'une part, et évidemment, ça a des répercussions sur les stabilités des agences. Et on peut dire aussi que des architectes consciencieux sont vite découragés par cette loterie que sont les concours et en fait le peu de chance de réussir de gagner et de passer les différentes étapes de sélection et puis après pour être lauréat. Donc il y a une course d'obstacles qui peut désespérer un grand nombre d'architectes sérieux. Alors il y a aussi des effets pervers dans le système. C'est-à-dire, par exemple, des grandes agences, et on peut dire surtout les grandes agences parisiennes qui détiennent le marché des grands projets. Ça, c'est là aussi, c'est une aberration française, mais on ne peut pas tout dénoncer. Alors, ce que j'ai en train de vous dire, c'est que ces grandes agences ont trouvé un moyen assez efficace pour ne pas justement perdre de l'argent. Alors, sachant qu'il y a des primes, et puis, bon, les sélections sont plus faciles pour des architectes qui sont déjà médiatisés, et donc qui sont sélectionnés pour des concours en région, par exemple. Et la méthode, c'est de sous-traiter le concours à des équipes de jeunes architectes. Alors évidemment, il ne s'agit pas de prendre les salariés, mais des équipes qui partageront la prime. C'est-à-dire que la grosse agence va prendre une partie de la prime sans rien faire, si ce n'est que de prêter franchiser le projet. Et puis les équipes de jeunes architectes, alors on peut en prendre deux par exemple, équipes, on les met en concurrence, et puis la grosse agence va sélectionner une des équipes et donc ce projet sera peut être lauréat. Alors s'il est lauréat, les architectes peuvent participer en tant que dessinateur dans l'agence. Souvent leur nom n'apparaîtra jamais. Et donc, on a un système d'une perversion totale. Vous voyez où ça peut conduire ce système. Donc, il y a près d'un demi-siècle que l'on pratique ça, et le système, je pense, est arrivé à ces perversions. Voilà, donc, on voit bien cette dérive aujourd'hui. Et comme je vous disais tout à l'heure, et je suis très minoritaire pour dénoncer cela, c'est une attitude que j'ai eue toujours parce que je pense avoir vu vers où le système allait. Et d'une manière surprenante, les architectes ne font pas cette analyse, et autant les représentations professionnelles de l'ordre des architectes ou des syndicats sont au contraire pour demander plus de concours. Alors ça nous renvoie à... les plus anciens se souviendront de l'affaire du talc Morange, qui est une affaire très douloureuse, mais qui avait... c'était le talc que l'on mettait au bébé qui avait des rougeurs. Bon, c'était quelque chose qui est un peu passé de mode, mais à cette époque-là. Et il s'est trouvé que par suite de manipulations au niveau industriel, il y a eu un produit toxique qui a été mélangé avec le talc. Et donc, les bébés avaient des rougeurs qui étaient dues au talc et on les talquait encore plus. Et donc, il y a un nombre assez important de bébés qui sont morts ou ont eu des séquelles gravissimes. Ça veut dire qu'en fait, l'exemple que je prends, c'est que on ne voit pas d'où vient le mal et au contraire, on veut encore, on en demande plus. Et les architectes qui ont évidemment le sentiment de la crise croient toujours, je ne sais pas, c'est comme l'addiction au jeu ou au loto ou à la roulette. On veut toujours, c'est le syndrome du joueur, de penser qu'on va se refaire dans la prochaine partie. Voilà, donc tout ça n'est pas très gai, et on va faire une petite pause musicale et on reprendra sur ce sujet. Alors nous allons reprendre sur les concours et sur un autre aspect qui est le fait que on fait des projets d'un bâtiment qui est à venir et que il s'agit de documents graphiques pour des bâtiments qui, eux, effectivement, sont le contraire d'un dessin. L'architecture, c'est pesant, lourd, on y rentre dedans et on y vit et les bâtiments perdurent si ce n'est des siècles, mais en tout cas des décennies. Donc, on a une responsabilité très importante sur l'élaboration d'un projet d'architecture et il faut dire que la méthode du jugement par des jurys est souvent d'une légèreté confondante. Pour avoir participé à des jurys nombreux et même des jurys internationaux, je crois que c'est assez sidérant de voir que la plupart des gens qui sont assis autour de la table dans un jury ne savent absolument pas comprendre le projet parce qu'un projet d'architecture, ben, c'est quelque chose qui est pas simple du tout à comprendre. Donc il y a aujourd'hui l'illusion des rendus numériques, mais encore une fois, il s'agit d'une illusion parce que les rendus numériques, comme on le sait très bien, dans les effets cinématographiques et autres, on peut arriver à faire justement l'illusion du réel et que la réalité n'est pas du tout celle que l'on voit. De plus, le fait qu'il y ait des images numériques, on peut dire, rend paresseux les gens pour aller scruter les plans et de regarder si l'image pleine de séduction, avec des arbres, des personnages, des ombres, des lumières, qui sont évidemment vues sous un jour favorable quand il ne s'agit pas d'être totalement trompeur, eh bien, c'est quelque chose qui est très loin de la réalité et de ce fait, justement, on ne se donne pas la peine de comprendre les plans eux-mêmes. Alors, lire les plans, c'est effectivement quelque chose d'assez compliqué. Alors, j'ai vu dans ma vie d'architecte souvent des gens qui disent, moi, je sais lire les plans. Alors, on sait lire les plans comme on sait lire une carte. Ça veut dire qu'on peut voir effectivement des choses qui sont une salle qui est à gauche, une entrée qui est au centre. On peut lire des éléments, mais de là à avoir par exemple, on peut parler de l'intérieur, l'impression du volume, des hauteurs, du rapport de la lumière qui va rentrer dans la pièce. Alors, quand il s'agit d'un tout petit projet, quand il s'agit notamment de réfection, où on a le bâtiment qui est déjà construit, on peut dire c'est relativement plus facile. Mais certaines architectures ne se prêtent pas du tout à la compréhension, et même des professionnels aguerris dont je pense faire partie ont des difficultés pour comprendre les projets. Je vois, je ne suis pas le seul à avoir été enseignant et quand on se donne la peine de rentrer dans les projets des élèves, des étudiants, on a un effort très important à faire et tout en ayant une expérience à la fois justement d'avoir dessiné, d'avoir construit, d'avoir pu faire ce va-et-vient entre ce qui est dessiné donc en petit format et le bâtiment futur, eh bien, on a aussi des grands efforts à faire, cet effort de compréhension. Et même les plus grands architectes mettent du temps à rentrer dans un projet et à le comprendre en ayant toujours la peur de se tromper. Personnellement, j'ai eu des expériences à travers des bâtiments d'architectes connus, des références. Il y a par exemple un bâtiment qui est le bâtiment de l'architecte Alvar Aalto, qui est un architecte finlandais. de l'entre-deux-guerres, surtout, qui a construit énormément de bâtiments, notamment, enfin, surtout en Finlande. Et il a construit un bâtiment qui est aux États-Unis, à Boston, à Cambridge, en fait, sur l'université, de célèbre université du MIT. Et ce bâtiment, qui est un bâtiment de chambre d'étudiants, est un bâtiment qui est en forme de serpent le long de la rivière. Le plan est extrêmement surprenant. Et tout en sachant le génie de ce grand architecte, je me demandais comment ça pouvait être. Avant de l'avoir vu, donc j'avais essayé de comprendre ce bâtiment, et j'avoue effectivement, je n'avais rien compris de ce que pouvait représenter la spatialité quand on rentre dans le bâtiment, quand on y est dedans, le déroulement des escaliers, des couloirs, les différentes salles. C'est quelque chose qui est totalement incompréhensible. En tout cas, ça a été incompréhensible pour moi sur les plans. Donc, vous voyez que c'est quelque chose qui est extrêmement complexe, et je pense que plus les architectes ont de l'expérience, plus ils reconnaissent cette complexité. Et on a affaire à des gens dans les jurys qui n'ont aucune expérience de cela, et qui tranchent et qui coupent pour uniquement des images séduisantes. Donc, le concours va produire une architecture qui doit être, de ce fait, compréhensible. Et on va aller vers forcément des simplifications, des caricatures. Ben, on ne peut pas en vouloir aussi aux architectes d'essayer de gagner le concours. Donc, ils éviteront certaines complexités en trois dimensions qui seront trop difficiles à comprendre pour avoir des projets qui, on peut dire, gagneront des concours par leur architecture. Donc, on sait que l'architecture qui gagne des concours, elle sera toujours un peu caricaturale, parce que les choses complexes, eh bien, ça passe mal dans un jugement rapide. Donc, on va évacuer la complexité pour avoir des choses simples. Alors, effectivement, ça ne veut pas dire que ce soit forcément toujours négatif, mais enfin, ça peut l'être. Et on peut avoir des bâtiments, effectivement, qui ne correspondent pas aux attentes, mais surtout, on aura on peut dire, tout un panel architectural de projets possibles, de diversité et d'architectes qui n'arriveront jamais à la commande. On peut d'ailleurs dire que des grands architectes du XXe siècle ont très peu réussi de concours. Je parle par exemple de Le Corbusier, qui a eu des échecs dans les concours, et ses commandes étaient directes. Et également Louis Kahn, qui est un grand architecte américain, qui n'a jamais gagné de concours. Voilà, donc la liste serait longue. Alors aujourd'hui, effectivement, les architectes connus sont effectivement des lauréats de concours. Mais on pourrait se poser la question de ceux qui, justement, n'ont pas pu construire à cause de cette généralisation, en tout cas dans notre pays, de cette procédure. Donc vous voyez que c'est un problème complexe. Et je sais qu'on peut me poser la question, mais alors qu'est-ce que vous proposez? Puisque c'est très bien de critiquer un système de dévolution des marchés qui apparaît effectivement en apparence comme démocratique et donnant sa chance en tout le monde, mais en fait qui ne l'est pas, puisqu'en fait on va sélectionner des gens sur le fait qu'ils ont déjà réalisé, je ne sais pas, des écoles, des mairies ou des stades, et on va sélectionner des gens qui ont ces références. Donc en fait, on arrive à un système qui se mord la queue par rapport à cela. Alors, Effectivement, l'idée aussi, c'est que ça donnait les chances aux jeunes architectes. En fait, comme je viens de vous le montrer, ça ne la donne pas, puisqu'en fait, on est sélectionné sur référence. Et donc, on ne sait jamais comment on peut obtenir ces références, puisqu'on n'amorcera jamais la pompe. Donc là, c'est aussi une des hypocrisies du système. Alors, je reviens à ma question que vous me poserez, que vous me poseriez, ce serait qu'est-ce que je proposerais comme système? Alors, effectivement, le système antérieur, dont je vous ai parlé la semaine dernière, n'était pas parfait, puisque c'était une sorte de cooptation à travers le Grand Prix de Rome, et puis des systèmes à la française où on avait avis des privilèges, parce que à 23 ans, ou je ne sais pas, c'est un peu le problème des grands concours, Polytechnique ou ENA, etc. On est sûr d'avoir sa carrière, même du fait qu'on ait réussi et on a assez peu de remises en cause. Donc, ça, ce système, c'était donc le système français. Alors, celui-là, c'est vrai que ce n'est pas un bon système. Alors, il faut regarder comment ça se passe dans d'autres pays. Et peut-être aussi comment ça se passait avant. Eh bien, le problème dans tous les métiers artistiques, c'est effectivement d'avoir une certaine renommée, d'avoir des choses à montrer. Et donc, il faut avoir déjà réalisé. Alors, un peintre, il peut faire des tableaux, un poète, un écrivain, il peut faire des manuscrits. Le problème de l'architecte, c'est qu'il fait des dessins et c'est un peu compliqué parce que pour construire, bah, il faut de l'argent, il faut un maître d'ouvrage, il faut un projet, il faut un client. Et donc, c'est toujours le problème des premières œuvres qui est complexe. Mais par contre, il est possible que, au lieu de faire cette sélection imbécile dont je vous parlais sur référence, c'est-à-dire que pour faire un stade, il faut avoir fait un stade, pour faire une prison, il faut avoir fait une prison, système qui se mord la queue, on peut aussi penser que quelqu'un qui a fait une maison de vacances qu'il aura fait pour des amis ou pour sa famille, est tout à fait apte à faire une école maternelle. Si on se rend compte que le projet a été parfaitement dans les clous de du délai, dans les clous du budget, et aussi que le projet qui a peut-être vieilli en quelques années dans le bon sens du terme, et ne présente pas des imperfections et des désordres, et on peut dire que cet architecte a bien maîtrisé un petit projet et lui donner sa chance pour un projet plus grand, et puis que l'école maternelle permette de faire un bâtiment d'universitaire, etc. C'est-à-dire qu'on pourrait avoir effectivement ce qui se passe dans à peu près tous les métiers. Un chirurgien ne va pas faire une opération à cœur ouvert en sortant de la faculté. Donc il y a toute une progression dans tous les métiers où on commence avec un documentaire pour être un cinéaste et il serait tout à fait souhaitable que ce soit appliqué ainsi. Alors, effectivement, ça demande, au lieu de cette facilité de ces concours, facilité toute relative, parce que les concours coûtent très cher. Il faut faire de la programmation, il coûte cher aux architectes, mais il coûte cher aussi aux collectivités qui doivent rémunérer plusieurs projets non réalisés. Donc, ce n'est pas un système très bon marché. Donc, on pourrait penser que tous ces budgets qui sont alloués à ces concours puissent être mis dans un autre type de procédure. Et comme je vous disais, à l'étranger, notamment dans les pays anglo-saxons, mais je sais que pour avoir visité des bâtiments en Allemagne où j'avais demandé comment on avait choisi l'architecte, eh bien, ils avaient fait ce qui se passe d'une manière à peu près générale, par exemple sur les campus, les universités américaines, quand on a un projet à faire, on nomme une commission et la commission, qui est faite à la fois des administrateurs responsables responsables de l'université et puis de sachants architectes qui vont être par exemple des enseignants dans les universités où il y a, ce qui est à peu près le cas pour tout, un département d'architecture, eh bien, on va faire une recherche d'architecte qui va correspondre au budget, au projet qui est demandé. Donc, les bâtiments, un musée, un laboratoire, sont peut-être des bâtiments qui sont différents, et on pourra choisir des architectes ou jeunes ou sur des bâtiments très complexes et qui demandent de l'expérience. Et ces commissions ne vont pas choisir comme sur des photos et sur des images numériques, mais ils vont faire le déplacement, ils vont aller voir des bâtiments, ils vont voir des bâtiments qui ont été réalisés depuis des années, regarder comment le bâtiment vit, se renseigner sur justement ce que je vous disais tout à l'heure sur les dépassements du budget éventuels ou pas, la compétence, la manière dont le bâtiment est utilisé, les bâtiments vieillis. Donc il y a ces commissions qui doivent être les plus objectives possible et qui vont voir des bâtiments, et de ce fait il y a des architectes, ou alors des architectes peuvent être, on peut en sélectionner deux, les discuter avec eux et choisir celui qui paraît le plus à même de correspondre à un projet, mais auquel bien sûr on ne demande pas de faire un projet, mais uniquement de le rencontrer. Alors, il s'agit effectivement de choses objectives, puisqu'on va voir des bâtiments réalisés, on va aller voir des bâtiments habités, on se renseigne sur l'historique d'un bâtiment, ce qui évidemment n'est jamais donné dans les dossiers d'architectes, où les architectes peuvent montrer les images qu'ils veulent. Aujourd'hui, on a des images numériques qui effectivement ne correspondent pas à des bâtiments qui peuvent être de mauvaise qualité, et personne n'est renseigné sur un tel ou un tel, si ce n'est que on a des images de revues, mais aussi les revues ne publient les photos que les architectes envoient sans aller voir les bâtiments. Enfin, on est dans un monde irréel, on est dans un monde virtuel pour ce qui est la chose la plus lourde, la plus épaisse, la plus chère aussi, qui sont les bâtiments et les quartiers construits. Et on voit que le mode de choix de dévolution est totalement, j'ai employé le mot infantile, j'ai employé le mot virtuel, en tout cas je pense que c'est grandement irresponsable.